Aujourd'hui, en ce 16 janvier, qui est la fête de Saint Marcel Ier, pape et martyr, mort en 309, c'est aussi la fête de Saint Bérard et ses compagnons, qui sont des martyrs franciscains, qui ont été martyrisés au Maroc. Dans ces pourparlers difficiles, parfois avec les musulmans, ils sont morts en 1226. Ils poursuivaient ce qu'avait entrepris Saint François d'Assise, comme on sait qu'il est allé en Afrique du Nord comme ça. Et c'est Saint Foilan aussi, un abbé de monastère. Il y a aussi un autre abbé, Saint Honorat, le fameux abbé de Lérins, hein, qui est mort en 430. Lérins, c'est cette île face à ces endroits plus ou moins de perdition de la Côte d'Azur, là, où c'est si beau pourtant. C'est aussi la fête de Saint Furcy, dont deux de ses frères étaient saints, Saint Follien et Saint Ultin. Mais tu sais, si lointain, sauf peut-être pour les franciscains, Saint Bérard et ses compagnons, les franciscains qui sont morts au Maroc, j'ai choisi de vous parler de quelqu'un qui est mort en 1954. C'est donc à Rencontre spirituelle aujourd'hui, une rencontre extraordinaire avec le prince Vladimir Guica. Je vous assure, c'est quelque chose de fantastique. Ne changez pas de poste, vous ne le regretterez pas, c'est merveilleux. Vous savez, le prince Vladimir Guica, c'est pas n'importe qui, il est né en 1873. C'était le fils de prince régnant de la Moldavie. Il est né dans un palais à Constantinople, donc en Turquie, à Istanbul. Un palais de Constantinople, le 25 décembre, oui, le jour de Noël, 1873, il naît dans un palais. Le même jour où on fête la naissance du Christ dans une étable. Or, avec les événements, ce prince Vladimir Guica, Guica c'est G-H-I-K-A, Guica, eh bien, il va suivre Jésus-Christ, pas à pas. Il va mourir martyr des communistes en Roumanie, son pays, car c'est un Roumain. C'est pour ça qu'on a entendu des chants de l'Église orthodoxe chantés par les moines de Cheftogne qui travaillent à cette grande unité dans le grand respect de l'Église orthodoxe. Vous savez que, je vous l'ai dit d'ailleurs, que c'est... Le 25 mai dernier, le pape a bien invité les catholiques à ne pas chercher à cacher les erreurs, les maladresses de notre chère Église catholique dans ses relations avec les autres églises et particulièrement avec les églises orthodoxes. Et tous les drames qui sont survenus à Constantinople, particulièrement en 1204... Et il a invité les catholiques, n'est-ce pas, à connaître et apprécier les richesses du dogme, de la foi, hein, de la liturgie des églises orthodoxes. C'est comme ça qu'on entend assez souvent ici des chants de l'église orthodoxe qui sont si beaux. Et le prince Vladimir Guica était orthodoxe. Ce grand Roumain a voulu occuper la dernière place dans le christianisme, dans la société. Et aujourd'hui, bien, il règne dans le cœur de ses frères persécutés, les Roumains, et les Russes aussi. Comme, je l'espère, moi, personnellement, il règnera un jour sur les autels comme les saints. Il était déjà sur le chemin, on peut dire, de la sainteté, lorsqu'il a écrit dans son recueil de Pensées pour la suite des jours, ça a été publié chez Beauchesne en 1936, c'est introuvable aujourd'hui, on le voit qu'en bibliothèque et encore. Voici ce qu'il écrit, c'est une ligne et demie, c'est très simple. Il faut vouloir être un saint, non pour se plaire à soi-même, mais pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, oui. C'est pour ça qu'on doit vouloir être un saint. Il écrivait aussi une chose absolument fondamentale en ce début d'émission sur des vies de saints ou des vies de gens qui ont donné un sens à leur vie. Comme le prince Vladimir Guica, la meilleure façon de fêter les saints, écoutez bien, ça c'est fantastique, la meilleure façon de fêter les saints, c'est de leur ressembler. Pourquoi ne pas essayer de vivre comme eux? Ne fût-ce qu'un jour, leur jour, le jour consacré et béni par l'Église, où ils sont de garde pour nous aider. Aujourd'hui, mais c'est l'anniversaire de la mort, ou de l'entrée au ciel, du prince Vladimir Gika. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. La vie des grands convertis, et je m'excuse auprès de mes frères orthodoxes, c'est un converti au catholicisme. Il n'a jamais cessé de vibrer, comme un orthodoxe, devant la grandeur de cette Église, qu'il a dû quitter pour s'unir à l'Église romaine, mais c'était assez dramatique pour lui. Toute sa vie est remplie de luttes, de remous d'ailleurs, de débordements. Hein? Mais c'est intérieur chez lui. Son existence a été fort bien tissée de toutes sortes de douleurs, de moments poignants, mais il a toujours su les dissimuler, alors il n'a jamais fait état de ses difficultés puis ses problèmes. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Il est mort martyr. Il était très très bien qualifié. Bien qu'il soit né dans un palais sur les rives du Bosphore à Constantinople, pour mourir finalement dans un cachot des prisons soviétiques, il disait à ceux qu'il évangélisait, « Tâchez d'avoir la clarté tranquille, égale et comme confiante d'un cierge. » Quand vous regardez un cierge, c'est vrai qu'ils ont comme une espèce de grande tranquillité, les cierges. Ils se brûlent, ils éclairent, sont égaux, ils vibrent, mais c'est calme. Il disait, imitez le cierge dont la flamme ne décroît pas jusqu'à ce qu'il soit entièrement consumé. C'est un élément de réflexion pour nous, car on voit souvent des cierges ou des lampions dans nos églises. Imitez le cierge dont la flamme ne décroît pas jusqu'à ce qu'il soit entièrement consumé. Alors, Vladimir Gika est donc né, comme je vous ai dit, le 25 décembre 1873. Son père, à Constantinople, le général Jean Gica, était représentant diplomatique de la Roumanie. Ses ancêtres ont été longtemps des princes régnants de la province moldave en Roumanie. Il a reçu le baptême, donc, dans l'Église orthodoxe, et très jeune, il a été envoyé en France pour y faire des études, au lycée de Toulouse, puis finalement à Paris, où il a suivi les cours de l'École des sciences politiques. C'était un homme extrêmement instruit, il a été élevé dans la religion orthodoxe, et son âme était profondément religieuse et fervente, hein, au sein de cette Église, mais il n'y avait pas trouvé, dans la foi de ses pères, dit-il, l'aliment exactement qui pouvait répondre à ses désirs. Puis il n'a pas trouvé non plus, et c'est malheureux, les secours spirituels qu'il souhaitait. Une petite anecdote en passant. Olivier Clément, qui est le plus éminent des laïcs russes orthodoxes de France, me disait un jour, j'étais allé manger chez lui, puis il me confiait que quand il s'est converti, il avait songé à devenir catholique parce qu'il était athée, fils de communiste. Il avait réfléchi sur l'univers et que cet univers avait dû être créé par Dieu et que Dieu devait l'appeler à quelque chose, il ne savait pas quoi. Alors il est allé voir à l'université des prêtres catholiques qui l'ont plus ou moins bien reçu. Et il s'est retourné vers un prêtre orthodoxe et russe, et c'est là qu'il a été bien reçu, dans le sud de la France, et c'est comme ça qu'il est devenu russe orthodoxe, et qu'il est très heureux de l'être, il est très fervent et un admirable orthodoxe russe. Alors vous voyez comme ça dépend des gens qu'on rencontre. Alors le prince Vladimir Gika était de plus tourmenté par la recherche de l'unité des chrétiens, que seul, disait-il, finalement, peut réaliser, selon lui, la primauté de Pierre, parce qu'il était frappé par ce texte de Jésus, hein, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Alors, malgré tous les défauts de l'Église catholique, il était touché par cette parole. Il était guidé par le cardinal Mathieu, qui était alors archevêque de Toulouse. Il a compris que cette unité n'était possible que dans le retour, pour sa part, à l'Église catholique romaine. Alors, pour trouver toute la lumière et la paix de l'âme, il a dû se faire catholique. Et après de brillantes études, il possédait déjà des licences en droit puis en philosophie, il a obtenu le grade de docteur en théologie et a voulu devenir prêtre. Mais le pape Pie X l'en a dissuadé. Curieux, hein? Le pape connaissait bien les individus. Et puis, il a estimé que le prince Vladimir Guica devait rester dans le monde. Ou d'après lui, son action, qui était rehaussée du prestige de ses origines, de prince, quoi, mais était susceptible de ramener ses frères orthodoxes à accepter un jour cette grande union avec l'Église romaine, dans un respect mutuel. Et a été frappé par l'enseignement de saint Paul, qui donne à la charité toute son importance sur toutes les autres vertus. Hein. Alors, il a discerné le moyen le plus efficace pour parvenir à l'unité des chrétiens, c'était de les éclairer, les chrétiens, par toutes les actions possibles où on pratique la charité, l'amour fraternel. Et c'est ainsi que, tout d'abord, en 1904, c'était Pie X qui était pape à l'époque, n'est-ce pas? Il séjournait en Grèce, à Salonique, chez son frère, qui était consul général de Roumanie. Alors là, il s'est dévoué aux soins des malades de l'hôpital qui était dirigé par qui? Chose étonnante, par une fille de Saint-Paul, une sœur de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, sœur Pucci. Alors, rentré à Bucarest, en Roumanie, il y a appelé cette sœur Pucci pour fonder une maison des filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul. Et cette maison est devenue par la suite le grand centre médical, très reconnu en Roumanie, et qui sera occupé finalement par les communistes lorsque le gouvernement soviétique aura dissous la communauté puis chassé les religieuses. L'influence du prince Vladimir Guica grandissait sans cesse, hein, dans tous les milieux politiques, les milieux religieux, les milieux littéraires de son pays, la Roumanie. C'était des milieux dans lesquels il était recherché, hautement estimé en raison de sa grande bonté et de son humilité, puis de son affectueuse compréhension, et les orthodoxes le recevaient bien. Car il faut dire qu'en Roumanie, malgré tout, il y a une bonne entente entre les Roumains orthodoxes et les Roumains qui, tout en pratiquant la liturgie orientale, sont catholiques, ou bien les catholiques de rite latin. Une mutuelle compréhension plus... C'est pas facile, mais c'est mieux qu'ailleurs, hein. Et puis lui, bien, il observait le précepte de l'apôtre Paul d'être tout à tous. C'est beau ce que dit saint Paul, être tout à tous. Mais Vladimir Guica demeurait insatisfait de sa condition, alors là, il aspirait à s'engager plus avant, et puis totalement, dans le service de Dieu. Puis ses frères, alors il veut être prêtre de Jésus-Christ. Ah, ne pas oublier le conseil que lui a donné Pie X, par exemple, qui l'a suivi si généreusement pendant des années, mais... Là, il sent bouillonner dans son cœur le désir de devenir prêtre. Il est embrasé d'amour, vraiment. Il faut lire ses textes. Il est vraiment embrasé d'amour. C'est un passionné. Puis il y a des projets auxquels il ne peut plus résister. En 1922, donc près de 20 ans après avoir accepté de rester laïque, il revient à Paris, où son frère, cette fois-là, représente maintenant la Roumanie. Il y revient. Il est poussé par son affection pour la France, où il a passé la plus grande partie de sa jeunesse et qu'il considère comme une seconde patrie. Et en 1923, par permission spéciale de Pie XI, nouveau pape, à l'âge de 50 ans, il est investi du sacerdoce tant souhaité, auquel il était admirablement préparé par une vaste culture, hein, par la sainteté de sa vie aussi, et par des dons exceptionnels. Il pourra justement insérer dans ses pensées pour la suite des jours, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce cri de Jésus, qu'il semble bien avoir entendu, et qui va conditionner tous les actes de sa vie sacerdotale. Voici les paroles qu'il entend. « Ô mon prêtre, comment oseras-tu me sacrifier véritablement et tout entier si tu ne t'es auparavant sacrifié toi-même véritablement et tout entier ?» Ô mon prêtre, je répète, comment oseras-tu me sacrifier véritablement et tout entier, c'est-à-dire me sacrifier, c'est-à-dire offrir le saint sacrifice de la messe, quoi, et tout entier, si tu ne t'es auparavant toi-même sacrifié véritablement et tout entier. Et alors commence une épopée unique, obscure, étincelante, misérable, somptueuse même, mais ça devient lamentable et splendide à la fois. Alors pour être plus entièrement à Dieu et à ses pauvres, l'abbé Guica abandonne sa part du patrimoine familial, de son héritage. Ainsi dégagé de ses richesses, il se consacre infatigablement à un apostolat qui va puiser sa force, la force, on peut dire, de tous ses prodiges dans l'anéantissement de soi au service de tous. C'est absolument fantastique. Catholiques et orthodoxes, riches ou pauvres, incroyants ou blasphémateurs, tout le monde seront ses amis. Et c'est vers cette époque qu'il écrit ses pensées pour la suite des jours. Une sorte de testament spirituel qui porte la frappe d'une haute spiritualité. D'ailleurs, c'est Francis Jammes et Jacques Maritain qui vont écrire les préfaces. Je vous ai parlé de Francis Jammes le 1er novembre. Je vous parlerai de Jacques Maritain, que j'ai connu et que j'ai rencontré, oui, lors d'une conférence qu'il avait donnée il y a très longtemps, dans les années 40, au Ritz-Carlton à Montréal. Alors le prince Guica va à la recherche des âmes les plus endurcies, les plus éprouvées, les plus souillées, les âmes les plus anxieuses, les plus révoltées. Il a un don incroyable. Son visage, qui reflète la distinction naturelle, son aristocratie, mais il reflète surtout une immense bonté. Et son visage était encore adouci par une belle barbe, puis une espèce d'auréole de cheveux blancs, qui retombait en arrière, comme celle, disons, des chefs d'orchestre, vous savez, ou des grands sages. Et sa démarche était lente, mais assurée. Il avait les épaules légèrement voûtées, un regard très doux. Et tout ça, ça lui donnait un aspect de vieil homme, mais il n'était pas... Mais ça lui donnait aussi une impression de sainteté. Mais une sainteté qui était vraiment authentique. Alors il va s'installer où? À Villejuif, près de Paris. Oh, c'est un quartier difficile, hein, en pleine zone rouge, comme on disait, zone communiste. Puis il s'installe dans une baraque étrange. Oui, lui, le prince Vladimir Guica, il édifie là une chapelle comparable à cette étable de Bethléem dans laquelle Jésus est né un 25 décembre. Et lui qui était né dans un château, un palais à Constantinople, le 25 décembre. Alors dans cette étable, si on peut dire, dans cette baraque, il y met le Christ à la portée d'une population qui a besoin d'être évangélisée. Puis dans la plus petite partie de cette baraque de chemin de fer, il y a une planche mobile fixée au mur, ça lui sert de couche. Il la rabat pour se coucher dessus. Pour préparer ses pauvres petits repas, il dispose d'un simple réchaud à pétrole, imaginez. Puis il va passer là des nuits les plus rigoureuses de l'hiver, sans chauffage, sans rien. Il avouera d'ailleurs ingénument le sourire aux lèvres. Or, il disait, le plus difficile, c'est au matin de retirer de mes cils la glace qui les fige afin de pouvoir ouvrir les paupières. Imaginez, c'est incroyable, les paupières sont gelées. Alors, les premiers contacts allaient être rudes, mais fertiles en toutes sortes de difficultés. L'entreprise que sa tendresse, sa douceur, son héroïsme exerce sur les âmes et des cœurs fermés, cette emprise qui est rendue de plus en plus sensible, plus pénétrante, par son délicieux sourire, qui est d'une inépuisable indulgence, cette emprise-là opère toutes sortes de revirements, des transformations, des métamorphoses qui vont proclamer nettement, si on peut dire, la toute-puissance de l'Esprit-Saint. Il disait d'ailleurs, « Seigneur, si je vous demande parfois une marque sensible de votre grâce, ce n'est pas pour être plus sûr de vous, c'est pour être plus sûr de moi. » Alors ces bienfaits spirituels et matériels sont nombreux. Les pauvres réfugiés, arméniens, polonais, italiens, comme aussi les chiffonniers, ceux qui ramassent dans les déchets un peu de croix à vendre ou survivre. Puis aussi les mauvais garçons, dont il parvient à se faire aimer, mais lui sont de plus en plus reconnaissants. Ce prince qui a renoncé aux dignités humaines, à tous les honneurs, il vit d'une vie plus que misérable. Il offre joyeusement à Dieu ses prières, ses pénitences, ses sacrifices pour la conversion de ses frères séparés qu'il aime toujours d'un immense amour. Il aime aussi Dieu d'un amour total. Alors cette chapelle humble parmi les plus humbles est devenue une source de bénédiction et Jésus y trône parmi ceux qui sont les siens, les plus pauvres. Et le tabernacle devant lequel le prince Vladimir Guica, l'abbé Guica, prêtre selon le cœur du Christ, s'anéantit afin que d'autres renaissent à la vie, eh bien, cette paillasse minable sur laquelle il souffre allègrement. Mais toute cette richesse pour lui, c'est une richesse pour lui, cette pauvreté, mais il doit l'abandonner. C'est un déchirement. Il est le seul à sonder la profondeur de cette tristesse, parce que le cardinal Verdi, archevêque de Paris, a beaucoup entendu parler de lui, et alors il lui confie le rectorat de l'église des étrangers de la rue de Sèvres à Paris. Le chef de l'archidiocèse, ce cardinal Verdi, a évalué en somme le potentiel, les capacités de son subordonné, et ce qu'il peut attendre de ses ressources, de ses capacités. Alors, il veut le faire travailler en faveur des déracinés de toute race, de tout rang, de toute langue. Le cardinal sait bien qu'ils vont trouver chez ce prêtre le soutien dont ils ont grand besoin. Ils vont trouver chez lui l'ami, le guide de leurs justes aspirations. Et dans un autre renversement de valeur, bien le prince Vladimir Guica doit à présent fréquenter la haute société, sa société d'origine, revoir ceux qu'il a voulu fuir, renouer avec des personnes susceptibles de l'aider dans sa nouvelle tâche, mais il y rencontre aussi des gens merveilleux comme Jacques Maritain, Paul Claudel, François Mauriac, Henri Bordeaux, Francis Jammes. Alors l'affection qu'on lui porte et l'admiration dont il est entouré font que malgré sa résolution de passer inaperçu, bien il est élevé par pions, imaginez, à la dignité de protonotaire apostolique. Je ne vais pas me moquer de ceux qui sont des protonotaires apostoliques, là. Mais pions croit savoir qu'un, comme il dit, qu'un reflet de violet sur sa pauvre soutane noire, la pauvre soutane noire de cet apôtre des miséreux pourrait contribuer à l'efficacité de sa mission. Comme les temps ont changé, on penserait plus comme ça aujourd'hui. Et Monseigneur Guica, oui, il est devenu Monseigneur, remplit alors diverses missions, notamment au Japon. Puis, en qualité de membre des comités directeurs, mais il prend part à des congrès eucharistiques internationaux. Il sera en Buenos Aires, à Manille, à Budapest. Et entre-temps, durant ses séjours à Paris, bien, il prêche le carême à l'abbaye des bénédictins de Sainte-Marie dans le 16e arrondissement. Ce sont la même sorte de bénédictins que ceux de Saint-Benoît-du-Lac, hein, les bénédictins de Solesmes, de la Congrégation de France. Alors on le voit là-bas, absorbé en de longues oraisons, durant des heures, devant l'autel de la Vierge, ou bien au pied du reposoir en adoration pendant toute la nuit du jeudi au vendredi saint. Il veut se conformer en cela, disait-il, à la pure coutume de l'Orient chrétien. Et durant l'été de 1939, il se rend en Roumanie, parmi ceux de sa famille, qu'il affectionne d'une tendresse grandie encore par l'amour divin. Et bouleversé au spectacle du désarroi et de la misère des réfugiés polonais, avec la permission du cardinal Suard, archevêque de Paris, ben, il obtient de rester sur place, là-bas, en Roumanie, pour soulager, comme naguère dans la zone parisienne, là, à Villejuif, cette multitude des âmes désemparées auxquelles il prodigue les secours de l'Esprit-Saint et ceux du corps. Et là, la Seconde Guerre mondiale va lui permettre d'étendre son champ d'action. Il multiplie ses interventions auprès des pouvoirs en faveur des prisonniers politiques. Il s'occupe des étudiants catholiques auxquels il donne des conférences. Il prêche des retraites à l'église catholique roumaine de rite byzantin de la rue de Pologne. Vous savez qu'on a un prêtre de rite roumain comme ça, l'abbé, le père Roscanu, dont le fils Orias est un théologien remarquable. Et beaucoup de ses étudiants, chassés par la persécution soviétique et maintenant exilés, se souviennent du charme exquis, de la compréhension délicate qu'il avait des nécessités de chacun, puis de sa douceur spirituelle. Puis les entretiens extraordinaires qu'il donnait, et combien cette réflexion du livre de ses pensées exprime bien son amour du prochain. Il disait, « Tous les nouveaux venus que tu croises durant la suite des jours sur les chemins de la vie, regarde-les pour leur faire place en ton âme. » Et lorsqu'en 1944, Bucarest connaît les terribles bombardements qui faucheront des milliers de victimes, et il refuse de quitter la ville pour ne pas cesser de prodiguer le réconfort de la charité de Jésus-Christ à ceux qui souffrent. Il était dans l'ordre strict du plan de Dieu qu'une telle existence s'achève par le plus grand et le plus beau des sacrifices qui est de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Je vous parle du prince Vladimir Gika, devenu prêtre catholique, et qui a dû accepter le titre de Monseigneur. Monseigneur Vladimir Gika donnait le plus haut exemple dans ces honneurs-là, des vertus auxquelles il conviait les autres, avec tant de force et de délicatesse. Il puisait le courage de cet exemple à la source même de son ministère sacerdotal. Car sa façon de célébrer la messe était exceptionnelle. La messe, c'était pour lui l'acte d'union complète avec le Christ. Et c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'une messe? C'est le rassemblement des croyants autour d'un prêtre qui a ce pouvoir exceptionnel, extraordinaire, fantastique et miraculeux de nous permettre d'offrir ensemble à Dieu, notre Père, dans l'amour, du pain et du vin que lui, il a le pouvoir de consacrer et de faire de ce pain et de ce vin la présence même du Christ vivant dans son corps et dans son âme, afin que nous puissions nous unir au Christ avec lui et nous offrir tous ensemble à Dieu notre Père dans l'unité de l'Esprit-Saint, dans une immense offrande d'amour. Alors il vivait, lui, Monseigneur Gika, les souffrances et l'agonie de la mort de Jésus, car nous devons toujours être près de cette mort et de cette agonie de Jésus qui est ressuscité. Et il est certain que sa dernière messe aura été l'offrande de sa vie, car il avait souhaité le martyre, qui lui a été accordé, vous verrez. L'exemple étant la plus puissante prédication, si on peut dire, on l'a vu avec Don Liu, hier, sa femme lui a prêché par l'exemple, et elle l'a amené à la foi, puis il est devenu bénédictin. Et alors, un simple contact avec Monseigneur Gika, dit-on, quelques paroles de lui suffisaient à transformer ceux qui l'approchaient, hein, c'était extraordinaire. Mais les indifférents, là, les tièdes, aussi bien que les occultistes, mon Dieu, il y en a tellement aujourd'hui, les incroyants, il y en a de plus en plus, les pécheurs enracinés dans le vice, ils sont sans nombre, on ne peut plus compter, les blasphémateurs aussi, bien ils étaient touchés. Et Monseigneur Gika souffrait au spectacle du péché volontaire, justifiant cette pensée de Pascal, hein, Jésus-Christ sera en agonie jusqu'à la fin des temps. On dit que les larmes qu'il versait ont contribué souvent à la conversion de bien des pénitents quand ils le voyaient pleurer. Pour les ramener dans le droit chemin, Monseigneur Gika usait surtout de la prière en laquelle sa confiance était infinie. Sa concentration spirituelle était si intense que, silencieuse, elle revêtait une efficacité qui dominait tout. Comme quand on voit le pape prier, dit-on, dans sa chapelle, le pape Jean-Paul II. On sent la présence de Dieu. Un jour où il avait été prié de prêcher une heure sainte, il a été averti que parmi les assistants se trouveraient deux protestants qui étaient curieux de l'entendre. C'étaient des protestants au cœur ouvert et plein d'amour. Et après que Monseigneur Gika eut exposé le Saint-Sacrement, il s'est retourné vers l'auditoire. Il savait qu'il y avait là des protestants, puis il a dit, « Si nous croyons en la réalité de Jésus-Christ ici présent, et il y est réellement présent, il ne convient pas de parler, mais de se taire. Je prêcherai donc cette heure sainte en observant le silence devant le Christ lui-même. » Puis il s'est agenouillé. Ceux qui étaient au courant de la présence des deux protestants ont trouvé que c'était un peu insolite, ce moyen employé pour satisfaire leur curiosité. Mais au fond, il avait tout dit en quelques paroles. Et cette attitude de Monseigneur Gika avait été si éloquente, et sa longue oraison silencieuse venait témoigner si puissamment de sa foi, qu'à l'issue de l'heure sainte, ces deux protestants sont venus lui demander de les aider à mieux comprendre sa foi et ce qu'était l'Église catholique.
Il a été l'artisan de nombreux retours d'ailleurs au catholicisme, obtenus sans préparation aucune, et presque toujours de façon surprenante par le seul pouvoir de la grâce que ses prières et ses pénitences attiraient. Il est indéniable d'ailleurs que son pouvoir s'étendait aussi aux misères physiques, mais oui, faisait des miracles. Il a obtenu des guérisons d'origine, dit-on, surnaturelle. Et dans son humilité profonde, faisait comme le frère André, il les attribuait, lui, à une parcelle de la Sainte Couronne d'épines qui était enfermée dans une custode, vous savez, une petite boîte de métal pour porter l'Eucharistie aux malades, une petite custode qu'il portait toujours sur lui. Il avait toujours cette couronne d'épines, une parcelle de la couronne d'épines. Un incroyant disait du curé d'Ars, n'est-ce pas, j'ai vu Dieu dans un homme. Je me souviens quand nous avions interviewé Petite Sœur Annie, responsable des Petites Sœurs de Jésus de Foucault, là, à Rome, mon équipe avait ce sentiment d'avoir vu Dieu dans une femme. Et alors, l'affirmation s'appliquait aussi à Monseigneur Guy Clattant, il vivait dans la présence, et de la présence de Dieu en lui. Toute sa vie n'aurait été d'ailleurs qu'une prière, qu'une invocation ininterrompue, qui incitait à prier d'ailleurs, et son attitude était une prière, son regard était une prière, sa prédication était une prière. La présence de Dieu a été le point central de sa spiritualité. Il voyait Dieu partout d'ailleurs et en tout. Dans tout être humain, quel qu'il soit, il voyait Dieu à aimer, Dieu à servir. Il entreprit parfois un voyage représentant l'étendue du quart de la planète là, pour atteindre une seule âme dont il avait reçu l'appel angoissé. En dépit de difficultés qui étaient extrêmes, il trouvait toujours la possibilité d'accorder les secours spirituels et matériels à celui qui les lui demandait. C'est ce qu'il a nommé dans une brochure toute petite, quelques pages, mais très riche d'inspiration, la liturgie du prochain, qui n'est autre qu'un hymne à la charité. Voici ce qu'il disait. Dieu est charité. C'est le nom de Dieu vis-à-vis du monde. C'est la forme même de sa vie à notre égard. Dieu est charité. Les créatures qui veulent être charité, pour en vivre et pour porter efficacement autour d'elles un reflet de ce nom, de cette œuvre et de cette réalité bénie, ont à se pénétrer de Dieu tout d'abord, et Dieu s'y prête avec une étrange intensité d'action, tandis que nous y trouvons autant de consolation que de force. Et il ajoutait, c'est très beau, vouloir vivre tant soit peu de charité, c'est ne fût-ce que par intervalle toucher en nous-mêmes, par la grâce de Dieu, la substance de notre éternité. C'est constater, trouver, goûter en soi ce qui non seulement provient directement et sûrement de Dieu, mais forme la réalité même de notre vie de toujours. Puis, oh, il dit cette phrase fantastique, « En cette vie, l'acte de charité seul atteint Dieu. » Si on offre des souffrances sans charité, on n'offre rien à Dieu. Et si on offre nos souffrances avec charité, avec amour, ça change tout. C'est la charité, l'acte de charité seul atteint Dieu, dit-il, et nous met seuls là où nous devons rester. Tout le reste passe et est fait pour passer. Tout le reste passe et est fait pour passer. Tout le reste passe et est fait pour passer. Il ajoutait aussi double et mystérieuse liturgie, hein, du côté du pauvre, voyant venir à lui le Christ sous les espèces du frère secourable, du côté du bienfaiteur, voyant apparaître dans le pauvre le Christ souffrant sur lequel il se penche. Et liturgie unique par cela même, dit-il, car si le geste est de part et d'autre ce qu'il faut, il n'y a plus des deux côtés que le Christ rejoint dans deux êtres, à travers deux êtres. Il y a le Christ bienfaiteur, venu vers le Christ souffrant, pour se réintégrer dans le Christ victorieux, glorieux et bénissant. En somme, vous tous qui aidez des gens, qui soignez des malades, qui prenez soin de vos enfants, de votre mari, de votre femme, vous êtes le Christ. Et celui qui souffre ou qui a besoin d'aide, besoin de votre secours, de votre tendresse, de votre amour, c'est le Christ aussi. Hein? C'est ce qu'il explique, c'est très beau. Hein? Cette présence perpétuelle de Dieu était l'essence de l'enseignement de Vladimir Gicka. Il la vivait dans un réalisme extraordinaire, c'est pourquoi il s'élevait contre ceux qui voient en Dieu une espèce d'idéal théologique, plus ou moins, là, une idée. Pour lui, Dieu est une réalité première, essentielle. Et c'est par Dieu, que toutes les réalités existent. Et rien n'est plus réel que Dieu pour Vladimir Gicka. Ça me rappelle une entrevue qu'on avait faite comme ça avec Didier Decoing, frappait sur la table et dit « Dieu est plus réel que cette table ». Il était jeune, il avait 30 ans, un romancier français. Il disait aussi une belle phrase, « Il s'agit que notre amour aille toujours dans le sens des préférences divines, de donner une place au laïcat, lui enseignant d'être à travers tous les événements disponibles pour répondre à tous les appels de Dieu et à toutes ses préférences. Donner une place au laïcat, en enseignant au laïc d'être à travers tous les événements disponibles pour répondre à tous les appels de Dieu et à toutes ses préférences. » Alors, à l'abbaye de Sainte-Marie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, à Paris, dans le 16e arrondissement, il a entrepris la fondation de l'ordre de Saint-Jean, s'affirmant ainsi le précurseur des foyers de charité, oui, précurseur des foyers de charité qui ont repris l'orientation spirituelle de se consacrer à une seule règle, laquelle répondre toujours à toutes les exigences de la charité. Alors, nous sommes en 1948, les communistes se sont emparés de la Roumanie, où ils ont instauré le règne de la terreur, hein? Et Mgr Gicka était revenu parmi ses frères roumains qui sont menacés. Alors, le jeune roi Michel de Roumanie, malgré son courage, est contraint d'abdiquer, il part pour l'exil. Il connaît bien le patriotisme et l'abnégation de Mgr Gicka. Il décide quand même de l'amener, ainsi que son frère, ancien ministre des Affaires étrangères, dont la femme était dame d'honneur de la reine-mère. Mais Mgr Gicka va préférer demeurer en Roumanie, là où l'on souffrait, et où il prévoyait que la souffrance allait commander ce qu'on peut appeler le sacrifice total de sa vie. Il savait les malheurs qui allaient fondre sur sa patrie, et l'acharnement que les communistes allait déployer pour broyer quiconque était libre ou croyant. Et à deux reprises, il a eu la possibilité de quitter le territoire de la Roumanie, puis de fuir le péril pour gagner l'ouest de l'Europe où il aurait été en sécurité. À Paris, bien, il aurait trouvé de nombreux amis, des admirateurs, qui l'auraient accueilli avec joie. Dans cette France qu'il aimait, il aurait pu continuer à œuvrer pour la conversion de son pays, la Roumanie. Il n'en a rien fait. Il remplit jusqu'en 1952 les fonctions d'aumônier des sœurs de Saint-Vincent de Paul, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en célébrant ostensiblement, il ne se gênait pas, chaque jour, la messe à la chapelle, pour se dévouer ensuite auprès des malades, auprès des persécutés, auprès des malheureux. Il le réconfortait, il convertissait, il baptisait, en dépit de la surveillance très étroite, hein, puis du contrôle très très rigoureux des soldats et de la police communiste qui observaient chacun de ses gestes. Lui, infatigable homme de Dieu. Et sans la présence de Mgr Gicka, que deviendrions-nous, disait-on, en Roumanie? Et les conversions au catholicisme se sont multipliées. Les communistes prirent des mesures pour mettre fin à son activité. Alors, il a été placé d'abord en résidence surveillée. On a forcé le respect de ses geôliers. Il est relâché en raison de son grand âge. Il venait d'avoir 80 ans en prison. Incroyable. Il allait être arrêté à la suite d'un incident aussi étrange que typique des mœurs d'un certain soviétisme qu'on a connu jusqu'à tout récemment et qui risque de revenir, on ne sait pas trop, là. Dans la rue, Mgr Gicka attendait que soit donné le passage des piétons à un moment donné. Alors, le policier de service, qui avait surpris sa fatigue, c'était un bon policier, considérant la pauvre soutane élimée qu'il portait, il se promenait en soutane, sa stature courbée, sa barbe et ses longs cheveux blancs, mais il a fait stopper les autos. Il a pris Monseigneur Guica par le bras, il l'a conduit au trottoir de l'autre côté de la rue, il a demandé sa bénédiction, imaginez. On ne sait pas ce qu'a coûté à cet homme, à ce policier, son acte de courage, mais la scène n'était pas passée inaperçue de certains spectateurs qui, eux, étaient animés d'un autre courage. Ils sont empressés de le dénoncer après un jugement sommaire qui le condamnait à 30 ans de détention. Monseigneur Guica était emprisonné dans l'un des plus abjects cachots du fort de Jihlava. Lui qui était né dans un palais, souvenez-vous, il va mourir dans le cachot d'une prison soviétique. Il sera victime d'un raffinement de vengeance en haine de la foi catholique, la foi chrétienne. Comme il avait voulu que toute sa vie de prêtre s'écoule dans l'effacement, sa fin, sa mort sera ignorée. Et la nouvelle de sa mort ne parviendra qu'au début de 1954, le 16 janvier, c'est aujourd'hui le 16 janvier, il va parvenir à ses frères, à ses amis qui sont réfugiés, où règne encore le respect de la dignité humaine. À l'annonce de sa mort, tout le monde a accueilli cela en France, à Paris notamment, par des manifestations placées sous l'égide du représentant du Saint-Siège et du cardinal-archevêque de Paris pour témoigner du respect et de la vénération dont le prince Guica était entouré. Et alors, on peut prier avec lui cette prière admirable. Mort au pluriel et mort et poussière, bénissez le Seigneur. Ma mort à moi, bénis le Seigneur. Ma nourriture, bénis le Seigneur. Choses qui naîtront de moi quand je ne serai plus de ce monde, bénissez le Seigneur. Silence autour de ma mémoire, bénis le Seigneur. Bénis toi aussi le Seigneur, ô mon âme. Mon âme qui jamais ne devra mourir, crie ton éternité déjà commencée en bénissant dès cette heure éternellement le Seigneur. Cet homme a laissé de nombreux ouvrages, tous parus avant les années 40. Oh, il a publié La visite des pauvres en 23 aux éditions Beauchesne et aux mêmes éditions L'heure sainte. Il a écrit un beau livre, La présence de Dieu, paru en 32, encore chez Beauchesne, et La souffrance, la même année, chez Beauchesne, à Paris. La liturgie du prochain, cette petite plaquette-là, en 32, encore chez Beauchesne. Et 4 ans plus tard, il avait écrit Pensée pour la suite des jours, dont je vous ai lu quelques extraits. Il a publié, pour ceux qui aiment beaucoup Marie, un beau livre, La Sainte Vierge et le Saint-Sacrement, mais c'est introuvable, publié en 1929. Il a même publié un mystère évangélique en 1931, La femme adultère, et une étude très intéressante en 1924, La messe byzantine dite de Saint-Jean. Ce sont des ouvrages introuvables. Je conseille à ceux qui vivent dans des institutions religieuses de fouiller dans leur bibliothèque, ils les trouveront peut-être. Et l'idée motrice qui a jamais cessé d'animer tout sa prêtrise, son sacerdoce, c'était « Qui se dépouille pour autrui se revêt du Christ. Hein? » Qui se dépouille pour autrui se revêt du Christ. Il disait aussi « Si tu cherches Dieu, c'est que Dieu t'a cherché et ne t'étonne pas si, étant Dieu, il te trouve avant que tu ne l'aies trouvé. » Il disait que pour trouver Dieu, il faut vouloir le chercher en toutes choses. Celui qui ne sait pas chercher Dieu partout risque fort de le reconnaître nulle part. Il disait aussi, ce n'est jamais Dieu qui vient manquer. C'est nous qui manquons à Dieu. Et pour commencer à entrevoir Dieu, il faut s'être déjà perdu de vue. Se perdre de vue soi-même, puis là, c'est comme ça qu'on entrevoit Dieu. Car on ne peut songer à vouloir tout donner à Dieu qu'après avoir appris à ne rien lui refuser. On trouve aussi des textes magnifiques sur l'humilité. L'humilité qui met les choses à l'échelle de Dieu est aussi l'échelle qui permet de monter à Dieu. Puis au regard de cette humilité qui était très très chère à son âme, qui était tout à fait une âme sacerdotale, de vrai prêtre, de grand de prêtre merveilleux, il éclate cette apostrophe étrange qui fouette l'orgueil humain. Il dit « La vanité est la plus indéniable des rotures. » Le roture, c'est-à-dire des déchets, si vous voulez. « La vanité est la plus indéniable des rotures. Il n'y a pas de noblesse dont elle ne fasse déchoir. » La vanité. Quelle platitude, au fond. Quelle platitude. Il disait aussi « L'orgueil le moins facile à déraciner, celui des gens qui croient n'en pas avoir. » C'est vrai que c'est facile de penser qu'on n'a pas d'orgueil, mais c'est difficile de se débarrasser de ce sentiment abominable qui est tout à fait contraire à la véritable humilité. Le jour où, je pense, on comprend que tout nous a été donné de Dieu, hein? Nos mains, notre cerveau, nos yeux, la vie, nos parents, l'Église, les livres qu'on lit, les pensées des autres, tout. Tout nous est donné. Tout. Il suffit de vouloir. Même la volonté nous est donnée. Il faut l'utiliser comme il faut. Il disait faire grandement les plus petites choses et très humblement les plus grandes. Y a-t-il d'ailleurs de grandes et de petites choses quand on fait tout pour l'amour de Dieu et rien que pour lui ?